Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Bonsoir. Nous voici donc de nouveau ensemble dans nos lectures en liberté pour la suite du roman de Maya Canaan Mako, Avant qu'elle s'en aille. Le souffle chaud du désert. Elle s'est levée. Elle sort de la pièce. Elle passe beaucoup d'une pièce à l'autre, comme si elle cherchait quelque chose ou quelqu'un. Je la regarde faire. Elle appelle son mari 10 fois, 20 fois dans la journée, juste pour s'assurer qu'il est bien toujours là. Mon regard se pose sur une tapisserie que j'ai toujours connue chez nous. Un de ces objets qui accompagnent votre enfance et qu'elle a toujours gardé avec elle. Un palmier au centre et des hordes d'oiseaux alentour, comme un paradis perdu. L'image d'un temps biblique. La chaleur, les odeurs âcres de l'eau qui stagne, les vaches maigres qui paissent le peu de végétation présente, leurs jeunes maîtres qui se chamaillent le long du canal de la route de Saqqara, où nous allons passer l'après-midi, la maison orientale de l'ami de notre père, Ali Kachef, sublime architecture en terre, simple et efficace pour le climat sec et chaud d'Égypte, elle s'ouvre sur des champs à perte de vue comme un mirage au milieu du désert. Bonheur retrouvé pour mon père. Alors que mes doigts caressent le fil tissé, elle sourit, s'approche, touche à son tour l'arbre puis le ciel. Elle me dit qu'elle a aimé ce temps où nous étions enfants. Nos étés à Agami au bord de la Méditerranée, nos Noëls au Caire. Et qu'elle l'a aimé, lui. Elle dit qu'elle voudrait retourner dans ce petit cimetière du vieux Caire où il est enterré. Je sais que ce n'est pas anodin, car bien qu'elle soit issue d'une longue lignée de pasteurs, ou peut-être pour cela, elle n'aime pas les rituels. Elle ne se recueille pas. Elle ne prie pas. Elle se fiche des stèles et des sites commémoratifs, mais au Caire, dans ce petit cimetière au milieu des cyprès et des orangers de la vieille ville, ce lieu de paix au cœur d'un pays plusieurs fois millénaire, c'est tellement beau qu'il ne peut pas y avoir de tristesse. Juste le sentiment de faire partie d'une histoire en cours, sans drame ni tracas. Elle ne veut plus partir à l'assaut du monde. Elle veut revenir sur ses pas, revoir des lieux aimés, l'Égypte tout d'abord. Cette fois, c'est moi qui ai peur. Elle arrive au bout de sa vie alors que je sais trop ce que je pourrais perdre. Je suis consciente de la folie des hommes qui tuent par bombes, à l'arme blanche, en fonçant dans la foule. J'ai peur à l'idée qu'ils puissent nous atteindre à nouveau. C'est ainsi. Je ne banalise pas. Je sais les ravages de cette folie, ce qu'elle a fait de nos vies amputées, enterrées là-bas au cœur de cet Orient devenu momentanément fou. Je ne sais plus voyager sans peur et ne veux pas prendre le risque d'assombrir notre avenir. Je n'ai pas ce courage-là. J'aime imaginer ma mère dans les années 1970, elle, l'occidentale, la militante, mini-robe et cheveux courts en Égypte, ou le jour de leur mariage à la mairie d'Alger, où ils vivent à l'époque. Le témoin de mon père, pourtant chrétien, est un leader des frères musulmans. Il partage ce désir de s'affranchir du dictat des pays occidentaux. Ils veulent plus de justice sociale, un monde arabe uni et fort, indépendant et respecté. Diversité des opinions et tolérance dans leur vie. Nous étions chez nous. Quand elle était une jeune femme, alors que nous étions, mon frère et moi, des enfants, nous n'avions jamais peur. Là-bas, en Orient. Nous passions la plupart de nos vacances en Égypte. Nous y étions chez nous. Souvenirs qui font la nique à ces enfants d'hier devenus aujourd'hui fous de Dieu et de misère. C'était un pays doux, où les femmes voilées étaient minoritaires, où chacun cohabitait sans blesser l'autre et où la haine n'avait pas encore déferlé dans les cœurs. C'était l'Égypte où Ali, le cuisinier, faisait sa prière 5 fois par jour en étalant son petit tapis et où les femmes se baignaient tout habillées à côté de nous qui arborions nos maillots 2 pièces. Nous pouvions rire ensemble. C'était avant la brutalité, la haine et le repli. C'était avant les larmes de mon père. C'était avant que de jeunes hommes se portent volontaires pour faire exploser des bombes aux 4 coins du globe. Mer infinie, sable blanc, peau tannée, journée rythmée par le soleil de plomb, sieste prolongée, longue soirée, pépins salés, grillés et citronnades. Nous passons l'été au bord de la mer, près d'Alexandrie, avec mes cousines, accueillantes et chaleureuses. Année après année, on retrouve Thérésina, la jeune fille au père qui s'occupe de nous. Elle est notre rayon de soleil, notre arbre pendant 2 mois. Nous sommes de petits singes agrippés à elle, Thérésina, l'orpheline, élevée par les sœurs du Sacré-Cœur au Caire. D'où lui vient d'être si joyeuse et si maternelle? Il y a des anges qui jalonnent nos vies. Douceur de la terre de mon père, du sable chaud, de la bonté du peuple qui n'amasse pas et fait confiance à demain. Chaleur de ses amitiés qui perdurent au-delà de l'absence. Accueil du frère, parti faire sa vie ailleurs, de sa femme et de ses enfants. Je l'imagine adulte depuis longtemps déjà, vieil étudiant de 40 ans, avec son accent chantant et ses airs qui roulent, seul dans Paris, cheveux crépus et peau mate, passant son doctorat en agronomie, se qualifiant encore et toujours, ne laissant rien au hasard pour participer, comme il l'a prévu, au programme que s'est fixé l'ONU. Il veut éradiquer la faim qu'il a vue sévir chez lui. Il cherche un équilibre. Ce n'est pas un idéologue, pas un communiste, pas même un socialiste, c'est un humaniste, un homme qui pense qu'il y a des bons et des mauvais leaders, de bons et de mauvais patrons, et que chacun est maître de sa conscience. Plus tard, Nasser Parti, on lui propose de devenir ministre de l'Agriculture, il refuse. Il reste fidèle à la FAO. À ce qu'il peut y réaliser, incertain de son pouvoir d'agir dans son propre pays. Pourtant, il pleure lorsque Sadat meurt, de vraies larmes silencieuses qui roulent sur ses joues, les seules que je ne lui ai jamais vues. Je me rappelle d'un deuil familial. On m'a caché les images de l'assassinat et je n'ai pas pris la mesure de ce que cette mort représente pour l'Égypte et pour le Proche-Orient. Je ne mesure pas l'abîme qu'elle a créé. Je sais si peu de choses de mon père. Je ne connais que sa tendresse. Mais je ne sais pas quel homme il était, ses idées, ses combats, ses aspirations, ses désirs. Je les devine, les idéalise. Je justifie ces contradictions. Raconte-moi, dis-je à ma mère. Je ne me rappelle pas, dit-elle. Il était d'une intelligence redoutable, calme et brillant. Je l'admirais pour cela, mais il était tellement secret. Ça le rendait insaisissable. Et elle ajoute, « Parfois, je me demande si j'ai bien vécu toutes ces années avec lui. » Pour mieux le cerner, je cherche. Je lis les livres qui lui ont appartenu, les articles qu'il a écrits. Je plonge dans l'histoire de son pays. Je parle avec ceux qui l'ont connu pour reconstituer le puzzle. Mais toujours, il m'échappe. Et puis un jour, je regarde les images de l'assassinat de Anwar el-Sadat, ses corps par terre, les chaises de cette tribune officielle sens dessus-dessous. Et ce qui me marque, c'est la brutalité des survivants. Alors qu'il n'y a plus de danger, ils ne viennent pas au secours de ceux qui gisent au sol et dont on ne sait s'ils sont morts ou vivants. Je me dis que Sadat était mal entouré. Il ne pouvait pas faire confiance à ces hommes, ceux-là même qui ont repris le pouvoir après lui. Est-ce pour cela que mon père n'est jamais vraiment rentré durablement chez lui? Et pourtant, je revois son sourire et le bonheur qu'il affichait dans son pays au milieu des siens. Je me rappelle avoir pensé que c'était là, au Caire, qu'il était pleinement lui, dans cette ville qui ne dort jamais, caressée par le sable chaud et la brise du Nil. Mes madeleines à moi, ce sont celles qu'il m'a transmises. L'odeur de Molokeya, de tante Mimi, et de la Kobeba, de tante Jocelyne, de tante Marthe qui ne sait pas faire cuire un œuf, mais laisse dans son sillage des effluves de parfum et sur nos joues des traces d'un rouge incendiaire. L'odeur de cigare d'oncle Raymond, les yeux noirs ourlés de colle de tante Leïla, les rencontres avec des jeunes endimanchés que nous faisons derrière l'église que fréquentent les cousines, du club de chasse où mon père retrouve ses amis et tire sur des plats qu'il rate souvent. L'Égypte, ce sont les enfants dans la rue qui me paraissent alors plus libres que pauvres, les cerfs-volants en papier journal, les ballons en carton, les grappes humaines qui débordent des bus traversant la ville. Ce sont les domestiques que nous avons connus enfants et vus vieillir dans notre famille. C'est cet autre monde loin des droits sociaux et qui existe pourtant encore. Ce sont les baignades dans la piscine du Mena House, au pied des pyramides alors que les adultes prennent le café au soleil, les après-midi au Jessira Sporting Club, poumon vert, havre de paix dans la cohue de la ville où on joue au foot, on se baigne, on court, on bavarde sous la tonnelle. Ce sont les Noëls chez tante Mimi et les mariages dans les grands hôtels où nous ramassons après leur passage les petites pièces dorées lancées sur les mariés pour leur souhaiter prospérité.
Da una lacrima sul viso ho capito molte cose dopo tanti e tanti mesi ora so cosa sono per te. Uno sguardo ed un sorriso m'ha svelato il tuo segreto, che sei stata innamorata di me ed ancora lo sei. Non ho mai capito, non sapevo che tu mi amavi, ma come me non trovavi mai il coraggio di dirlo, ma poi quella lacrima sul viso è un miracolo d'amore che si avvera in questo istante per me, che non amo che te. Capito, non sapevo che tu mi amavi, ma come me non trovavi mai il coraggio di dirlo, ma poi quella lacrima sul viso è un miracolo d'amore che si avvera in questo istante per me, che non amo che te, che te, che te, che te, che te, che te.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Et donc après ce nouveau moment musical, nous revenons à la lecture. Été après été, à Agami, sur le bord de la Méditerranée, ma peau blanche brunie de force, bien que nous vivions au rythme du soleil. C'est lui qui dicte notre emploi du temps. Invariablement le même, baignade tôt le matin quand la plage est encore calme, repas préparé par Ali, le cuisinier, longiligne, dans sa robe de coton blanc immaculée, sieste prolongée quand le soleil se fait insupportable, baignade à nouveau, château de sable et jeux de plage. Le soir, nous sommes en famille. Chacun invite les autres et nous faisons ainsi le tour des villas et des appartements des cousins et amis qui séjournent tous au même endroit, à la même période. Nous sommes toujours nombreux et bruyants, incroyablement bruyants, comparés à ma famille française, chez qui la discrétion est de mise, chez qui on parle tout bas. Ici, on parle fort, on crie. On joue, on s'invective, on rit. Il y a les plus âgés qui restent attablés, les femmes qui s'activent en cuisine, puis se retrouvent sur la terrasse, les hommes qui parlent politique et économie en buvant du whisky, les adolescents qui retrouvent leurs amis tout en veillant distraitement sur nous, les enfants partis seuls se promener dans le village. Nous aimons ces excursions nocturnes. Quadriller le quartier librement, pieds nus, dans les ruelles recouvertes de sable où ne passent que quelques ânes et de rares vélos. Retrouver les copains qui friment sur leurs deux roues, faire un tournoi de ping-pong, acheter des bonbons chez l'épicier qui reste ouvert toute la nuit. Plus tard, l'année de mes 13 ans, l'été avant la mort de mon père, mon corps refuse que je m'expose davantage au soleil. Ma peau y est devenue allergique. Elle me signifie ainsi que j'ai eu une dose suffisante pour le restant de mes jours. Trop de vacances dans des contrées ensoleillées. Je vis depuis à l'ombre des grands arbres et me délecte de cette sensation de frais lorsqu'il fait chaud. La mer délicieuse, y plonger, faire corps, nager longtemps comme je le faisais avec mon père. Non pas la nage indienne, mais le dos crawlé pour pouvoir regarder le ciel. plaisir partagé de l'eau avec mon mari et mes filles. L'été, nous devenons des poissons. Nous cherchons le rythme juste, comme d'autres cherchent l'accord en musique pour nager ensemble dans des mers souvent froides. Le cercueil. Mon père est revenu au Caire dans un cercueil de plomb. Pendant que notre mère et notre famille égyptienne étaient réunies pour accueillir sa dépouille, pendant qu'ils se rassemblaient à l'église, puis au cimetière, nous n'étions pas là. À l'heure de son enterrement, nous sommes allés, accompagnés de ma marraine, un bouquet de roses à la main, nous recueillir dans l'église de Sainte-Sabine, en face de la maison. Alors nous l'avons imaginé chez lui. En fermant les yeux, nous avons senti la douceur des arbres, le vent du désert, l'odeur de la citronnade fraîche. C'est ainsi que nous l'avons gardé vivant longtemps, comme dans un semi-rêve. À l'autre bout du monde. Mon père a refusé plusieurs postes en Afrique et en Asie quand nous étions petits. Il préférait partir seul en mission, convaincu qu'il valait mieux que nous grandissions tranquillement sur notre colline. Mais lorsque le secrétaire général a pensé à lui pour installer la FAO en Chine, nous avons su que nous allions quitter Rome pour le suivre. C'est l'hiver, en pleine année scolaire. J'ai 10 ans, mon frère 12. Nous n'avons jamais vécu ailleurs que sur l'Aventin. Rien de ce que nous connaissons ne nous permet d'imaginer ce que nous allons trouver en Chine. Mon frère a encore une fois réussi à passer la moitié du vol dans le cockpit. Il est d'un naturel enthousiaste et communicatif décuplé lorsqu'il est dans les airs. Il vient d'assister à l'atterrissage depuis le siège d'un copilote et il est surexcité malgré les 20 heures de vol que nous venons d'effectuer. Mon père, arrivé avant nous à Pékin pour installer les bureaux de la FAO, a obtenu l'autorisation de nous attendre à la porte de l'avion. Nous ne nous sommes pas vus depuis des mois et avons tous hâte de nous retrouver. En sortant de l'avion, je le vois au loin et je cours vers lui pour me jeter dans ses bras. Je n'ai pas remarqué tout de suite qu'il était accompagné de représentants officiels du gouvernement chinois. Je sens leurs regards interloqués sur nous. L'étreinte ne dure pas. Mon frère, ma mère arrivent à leur tour. Ils sont avertis et se montrent moins expansifs. Dans le taxi qui nous mène vers la ville, mon père m'explique que les Chinois ne s'embrassent pas en public, qu'il faut respecter leurs coutumes. Je suis perplexe. Je ne comprends pas bien pourquoi je devrais m'y plier. Mon père me paraît là en totale contradiction avec ce qu'il nous a toujours enseigné, la liberté de chacun à agir comme il le souhaite, s'il ne porte pas préjudice à l'autre. Ces retrouvailles sous haute surveillance ne me plaisent pas du tout, mais je ne veux pas gâcher la fête. Alors, je me tais. L'appartement où nous devons emménager n'est pas prêt. Nous dormons à l'hôtel où mon frère et moi partageons une chambre. Lorsque je me réveille, il est debout, de dos, fine silhouette dans la pénombre, cheveux noirs, pyjama beige, collé contre la vitre. Il est tôt. 4 heures du matin, peut-être 5, mais nous venons de traverser la planète. Nous sommes décalés. Je me lève et je m'approche. Il se tourne et me dit « Regarde !» Nous sommes maintenant 2 silhouettes minuscules collées contre la vitre. On pourrait croire qu'on vient d'atterrir sur une planète inconnue, happée par ce que nous voyons. Une ville grise, toute grise, telle qu'il n'en existe pas au bord de la Méditerranée, de grandes artères rectilignes sans fin. des fumées au loin se confondent avec l'aube. À nos pieds, au bas de la tour de cet hôtel dans lequel nous avons passé notre première nuit chinoise, des milliers de cyclistes, hommes ou femmes, emmitouflés dans de lourds habits matelassés gris ou bleus, des flots de vélos dans l'aube polluée de Pékin. Nous n'avons jamais assisté à un tel spectacle. Ce nouveau pays m'effraie. Je me sens minuscule. Je prends sa main. Et nous attendons que nos parents qui dorment dans la chambre d'à côté se réveillent à leur tour. Ici, tout est nouveau. L'odeur, le temps, les gens. Je suis sans repère dans la Chine communiste des années 1980. Mais à cet instant, je ne suis pas seul. J'ai avec moi mon presque jumeau, mon inséparable. Nous abordons notre nouvelle vie avec nos caractères propres. Il est aussi jovial que je suis renfrogné, aussi optimiste que je suis méfiante, aussi drôle que je suis réservé. En quelques semaines, le Beijing Hotel, fleuron de l'hôtellerie de la Chine communiste, drapé rouge sur mur gris, hall d'entrée majestueuse, salle à manger glaciale, couloir sans fin, devient notre terrain d'exploration. Nous en connaissons tous les recoins, et chaque membre du personnel, réceptionniste, liftier, femme de chambre. Nous savons quel plat choisir et lequel éviter à tout prix. Notre première demeure chinoise se situe à quelques pas de l'immense place Tiananmen qui deviendra quelques années plus tard le théâtre de massacres historiques. Lorsque nous intégrons notre appartement au dernier étage d'une tour flambant neuve dans un quartier sorti de terre pour y loger le personnel étranger, nous vivons au 16e étage. Le bureau de la FAO occupe l'ensemble du 15e. Mon père est à quelques pas de nous. Son bureau correspond un étage plus bas à la surface de notre salon. Nous descendons le chercher à l'heure du déjeuner. Nous passons le voir en rentrant de l'école ou en partant retrouver nos copains. Pour la première fois, nous vivons ensemble sans interruption. Plus de missions aux quatre coins du monde, juste de petits voyages domestiques ou en Mongolie intérieure. Le soir, lorsqu'il sort du travail, il monte me chercher. Je sais, lorsqu'il franchit la porte de l'appartement, qu'il va enlever sa veste et sa cravate, mettre un pull et un blouson, une chapka s'il fait froid, puis passer la tête dans l'entrebâillement de ma chambre et me dire « On y va ?» J'enfile mon manteau et nous voilà dans les allées de la résidence où sont rassemblées les familles des diplomates en poste à Pékin. Résidence Melting Pot, presque autant de nationalités que de pays sur Terre. Nous quittons ensuite l'enceinte gardée dans laquelle nous vivons tous ensemble, mais coupés des Chinois, pour rejoindre les rues du quartier de Jianguo Menvai, puis les allées du parc Ritan. Poumon vert le plus proche de chez nous. Mon père n'est pas sportif, mais il s'entretient et il aime marcher. Par tous les temps, nous arpentons les allées, contournons le lac, nous arrêtons pour regarder les hommes et les femmes pratiquer le tai chi, méditer ou discuter sur les bancs. Mais ce que nous aimons par-dessus tout, c'est écouter chanter les oiseaux, que les Pékinois sortent en cage comme nous promenons nos chiens en laisse. Nous menons, mon frère et moi, une existence heureuse. École, basket, piscine, ping-pong, soirée au club international, dimanche, en famille. Voilà, nous avons terminé pour ce soir donc la lecture de ce roman avant qu'elle s'en aille, que nous retrouverons la semaine prochaine. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.